Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce premier numéro de Patara, le débat politique du Radio Ndeke Luka de 2023. Mieux vaut tard que jamais. Bonne année à toutes et à tous. Nous parlons de l'augmentation des prix de carburant en Centrafrique, alors que le pays est enclavé, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'ouverture sur la mer. Le gouvernement vient d'augmenter à près de 50% les prix du carburant à la pompe. Il y a beaucoup de pourparlers, de débats politiques, voire de dénonciations autour de ce que l'opposition et la société civile qualifient de mensonges répétés du gouvernement Mouloua sur la crise des hydrocarbures dans le pays. Le 3 janvier, le gouvernement a pris un arrêté interministériel fixant le nouveau prix du carburant sur toute l'étendue du territoire. L'essence passe de 850 à 1300 francs CFA le litre. Un litre du pétrole qui se vendait à 650 francs est à 1150 francs et le gasoil qui coûtait 875 se vend dans les stations à 1450 francs CFA. Face à cela, les réactions fusent de tous bords pour dénoncer une augmentation de trop. Or, le président de la République a dans son adresse à la nation à l'occasion du nouvel an instruit son gouvernement à maintenir les prix du carburant, je cite, « En dépit de cette situation catastrophique, j'ai instruit le gouvernement de maintenir inchangé les prix des produits pétroliers à la pompe. Les efforts sont déployés par le gouvernement pour approvisionner le pays en carburant et rétablir le circuit légal d'importation et de distribution des produits pétroliers. » Fin de citation. Par contre, le groupe de travail de la société civile GTC, lui, parle d'arnaque et d'escroquerie et le GSTC d'inviter les fonctionnaires, les commerçants et les conducteurs de taxis et de bus, voire le peuple centrafricain à se mobiliser contre ce qu'il qualifie de forfaiture du régime Touadéra si rien n'est fait d'ici là pour abaisser ses prix. Le gouvernement de son côté dit avoir rétabli la vérité sur les prix à la pompe afin de soulager la peine de la population face à la crise du carburant qui n'a fait que trop durer. Question, quelles sont les conséquences directes de cette augmentation sur le quotidien du centrafricain? Le gouvernement est-il en train de liquider son peuple pour se maintenir au pouvoir, comme disent certains opposants? Qu'est-ce qui justifie les motivations du gouvernement? Va-t-on vers une crise sociale? Voilà l'ossature ou le décor planté de cette émission consacrée aux actualités politiques de la République centrafricaine. Au cours de ce débat, le gouvernement, évidemment, va tenter de convaincre ses administrés sur son initiative et l'opposition, comme d'habitude, jouera l'offensive. Sous la demande de nos auditeurs, nous recevons deux personnalités et donc deux visions différentes des choses. Arthur Bertrand Piri, ministre du Développement de l'Énergie et de l'Hydraulique, cadre du parti au pouvoir. Monsieur le ministre, bonjour et bonne année à vous et à vos collègues.
Bonne année, monsieur Armando, et bonne année également à tous les auditeurs de Ndekelo.
Martin Zeguele, député de Bukaranga 3, président du MLPC, ancien premier ministre de Feu Ange Félix Patassé. Monsieur, bonjour et bonne année à vous et à vos collègues de l'opposition.
Merci beaucoup, bonjour, bonne année d'abord au ministre Piri, à toute sa famille et à tous ses proches. Bonne année à vous également, à tous les techniciens, journalistes, tout le personnel de Radio Ndekuluka qui nous donne l'opportunité de nous débattre des sujets qui intéressent tout notre pays. Mais je voudrais surtout adresser mes meilleurs vœux de nouvel an, mes vœux de résilience, parce que l'année s'annonce difficile à tout le peuple centrafricain, à tous ceux qui nous écoutent.
Eh bien, au centre du débat, Armando Nguindi, c'est moi. Bonjour à tous. Tout de suite, nous lançons le débat.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndeke Luka.
Ouvrons le bal avec vous. D'abord, Monsieur Piri, vous avez sollicité Radio Ndeke Luka au nom du gouvernement pour participer à ce débat, tout comme le porte-parole du gouvernement sur cette question d'actualité. C'est pour votre première fois de prendre part à Patara, le débat politique. Quelles sont d'abord les motivations des autorités, surtout de votre ministère?
D'abord, je vous remercie Radio Ndeke Luka pour l'opportunité. Vous savez, il y a plusieurs raisons qui ont motivé. Vous parlez d'augmentation, mais moi je parle de rétablissement de la vérité des prix à la pompe. Nous sommes au mois de février 2022. La guerre a déclenché en Europe, en Ukraine. Et je rappelle ici que les pays qui sont en guerre, la Fédération de Russie, l'Ukraine, sont des grands pays producteurs de pétrole qui ravitaillent le monde, qui ravitaillent également l'Afrique, Et ces deux pays sont en guerre. Il y a la géopolitique qui est rentrée là-dedans. Maintenant, il y a l'embargo sur certains produits pétroliers à la destination de l'Afrique. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, vous savez que dans le domaine des hydrocarbures, des produits pétroliers, les contrats sont conclus 3, 4, 5, 6 mois d'avance. Nous sommes au mois de février. Les contrats pour les marketeurs, pour ravitailler notre pays, ont été conclus 3 mois plus tôt avec le règlement, le circuit bancaire, tout. Au mois de février, la guerre déclenchée en Europe, du coup, rapidement, dans les quelques jours, les prix ont augmenté. Les propriétaires de produits en Europe ont demandé aussi l'augmentation de prix à nos marketeurs ici. Du coup, nos marketeurs se retrouvaient en difficulté. C'est qui ? Première cause de pénurie. Donc, la guerre en Ukraine, l'augmentation de prix rapide sur le marché international. Nous avons commencé à gérer cette crise à partir du mois de mars. Les difficultés de ravitaillement de notre pays. On ne retrouvait pratiquement plus ou bien en contre-goutte les produits pétroliers sur le marché national. Nous avons commencé par un rationnement, le diminuer pour permettre à tout le monde d'avoir ça. On a commencé par un rationnement. Mais je dois vous rappeler, la principale aussi raison, c'est quoi ? C'est que depuis 1988, c'est le gouvernement qui subventionne les prix des ventes des produits pétroliers à la pompe. Ça veut dire que le prix fixé à la pompe, ce n'est pas les prix réels. Les prix sont plus élevés que ces prix qui sont fixés à la pompe. J'en profite pour rectifier vos prix. En fait, le super, ce n'est pas 850.
On n'a pas encore commencé le débat, mais oui, parce que
vous avez,
dans votre
motivation. Vous avez déjà donné les prix.
Non, on y reviendra. Mais bon, d'abord, qu'est-ce qui nous a motivé?
Les motivations,
c'est cela. Le gouvernement a sollicité ce débat pour éclairer la lanterne de la population.
D'accord. Donc, les prix qui sont pratiqués au niveau de la pompe ne sont pas les bons prix. Donc, le gouvernement a toujours subventionné. Et vous savez que depuis 2019, le gouvernement n'a plus d'aide budgétaire extérieure. Et ensuite, à partir de cette crise-là, les prix ont augmenté. Le gouvernement mobilisait entre 2,5 milliards à 3 milliards sur la vente des produits pétroliers par mois. Avec l'augmentation, le gouvernement n'a plus ces ressources-là. Ensuite, le gouvernement subventionne plus de 400 francs sur les ventes.
On ne va pas rentrer dans le débat.
Non, mais c'est les motivations. Vous demandez les motivations. Le gouvernement subventionne. Sur chaque litre vendu, le gouvernement subventionne.
Aujourd'hui, depuis 1988, c'est ce que vous avez
dit. Voilà. Aujourd'hui, nous avons essayé de maintenir les prix et de continuer à faire signer le gouvernement. Un, les droits et taxes collectés si les prix des produits pétroliers ne sont plus collectés dû à l'augmentation du prix, le gouvernement continue à subventionner. On a observé cela, on a tenté des scénarios jusqu'au mois de décembre. Arrivé au mois de décembre, si on continue avec ce rythme-là, un, vous avez constaté que les marketeurs ont refusé d'importer les produits parce que les prix pratiqués à la pompe, ils vendent à un prix où ils sont perdants. Donc les marketeurs risquent de ne plus continuer à ravitailler notre pays. Ça c'est de un. De deux, l'État va avoir des difficultés. Il faut continuer à faire fonctionner l'administration. Et je vous donne encore une raison pertinente. L'OPEP a décidé de diminuer la production de pétrole de 2 millions de barils par jour à partir du mois de janvier. Donc cette crise-là ne va pas terminer demain. Donc il faut rétablir la vérité des prix à la pompe.
Et c'est pour cette raison que vous êtes là dans ce débat, pour expliquer à la population, tenter de convaincre la population. Martin Zigili, monsieur, vous n'avez pas hésité d'accepter l'invitation de Radio Dikeluka et surtout d'en débattre avec le ministre Piri qui fut votre ancien allié politique et surtout le sujet d'actualité. Pourquoi ?
C'est toujours avec plaisir que je débat avec des compatriotes, quel que soit leur rang, qu'ils soient membres du gouvernement ou autre, des questions qui intéressent notre pays, parce que si j'ai fait le choix d'être député, c'est pour communiquer, c'est pour discuter. On ne peut pas dire qu'on refuse le débat. Ça, c'est le premier point. Je voudrais dire de manière tout à fait anecdotique que j'aurais aimé discuter en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, parce que on lui avait tiré la sonnette d'alarme. Quand je dis « on », je parle de la commission finance à l'Assemblée nationale. Lorsqu'on l'auditionnait pendant le collectif budgétaire au mois d'août 2022, les députés membres de la commission finance ont attiré par écrit son attention sur les risques graves que pèse sur l'économie de notre pays la question de la rupture d'approvisionnement du carburant. Je rappelle que la crise a commencé au mois de mars 2022, comme a dit le ministre Piri, avec la guerre et avec l'Ukraine. Et de manière tout à fait anecdotique également, je voulais rappeler que j'ai eu ici un débat que vous avez conduit avec un compatriote que je ne cite pas et qui avait dit que ce qui se passait en Ukraine n'allait avoir aucune répercussion sur la RCA parce que d'abord nous mangeons du manioc, etc. Ça montre déjà la légèreté avec laquelle un certain nombre de personnes ont pris le problème. Et pourquoi j'ai dit que j'aurais souhaité que le Premier ministre soit présent? Parce que le Premier ministre nous a dit qu'il avait fait des voyages en dehors de notre pays pour voir des alliés et que le problème du carburant allait être réglé. Ce que le ministre Piri est en train de dire n'est pas faux, mais il fallait le dire avant. Parce que gouverner,
c'est prévoir. Gouverner, ce n'est pas faire le médecin après la mort, c'est prévoir. La guerre a déclenché en mars. Nous sommes le seul pays, mars 2022, nous sommes le seul pays de la CEMAC qui n'est pas importateur de pétrole. Donc forcément, ça allait déstabiliser les finances de la RCA. On était d'accord. C'est des fonctions que nous avons occupées et nous savons ce que ça coûte. Souvenez-vous qu'en 1999, sous le premier ministre de Le Guéret, 2 ans avant que je devienne en fonction, il y a eu une grave crise du carburant en Centrafrique. Ce n'est pas la première fois que nous vivons ça. Mais c'est la première fois où on attend 1 an pour réagir et de cette manière. C'est pour ça que j'aurais voulu que le premier ministre soit là. Parce que je le rends responsable de la situation. J'aurais aimé qu'il soit là. Et s'il n'était pas là, j'aurais aimé que le ministre des Finances soit là. Parce qu'on a débattu de cette question. Vous nous avez élus et mis à l'Assemblée pour faire ça. Je comprends pourquoi la population dit que qu'est-ce que les députés font à l'Assemblée. Le problème que nous sommes en train de débattre aujourd'hui, M. Yangedi, ce problème a été déjà réglé par l'Assemblée nationale, notamment la commission production et la commission finance. On a examiné, enquêté, proposé même une structure de prix dans le rapport de la commission finance. Aujourd'hui, le chef du gouvernement n'est pas là et c'est le ministre de l'énergie qu'on nous envoie pour défendre une politique conduite par le Premier ministre. J'aurais aimé que le ministre des Finances soit là. J'aurais aimé également que le ministre des Transports soit là et que le ministre des Travaux Publics soit là. Parce que l'énergie structure les autres prix dans une économie. L'énergie structure les autres prix dans une économie. Lorsque vous augmentez de 5 ou de 6%, on fait des simulations pour voir l'impact sur la croissance, l'impact sur l'emploi, l'impact sur les revenus. Le gouvernement, dans sa perspective économique 2023, dans l'exposé des motifs du projet de loi des finances 2023, nous a dit que cette année, nous aurons une croissance de 1%. La Banque mondiale dit que nous serons en récession. Peu importe, ramenons les choses en moyenne, disons que nous aurons une très faible croissance. Une croissance aussi forte de l'augmentation, quel serait l'impact sur la vie des Centrafricains qui sont déjà 70% à vivre avec moins de 1000 francs CFA par jour.
Et ça, c'est la question principale du débat qu'on aurait déjà tout à l'heure.
Et je voudrais m'arrêter là-dessus. Je voudrais qu'il soit très clair que pour moi, l'augmentation du prix du carburant est évidente. Elle est évidente parce que nous ne produisons pas du carburant. Mars, guerre, rupture d'approvisionnement, flambée des prix sur le marché mondial. Quelles que soient les conditions, on arriverait à ça. Mais on a demandé d'y réfléchir plus tôt. Et on s'est adressé à celui qui conduit le gouvernement de ce pays. Et nous avons adressé au ministre des Finances. Et j'ai l'impression que cela a été pris comme quelque chose de réglable par d'autres, au lieu d'être réglé par nous. Donc la question que je voudrais relever, c'est que qu'est-ce que nous avons fait à l'Assemblée? Nous avons pris la structure des prix. Vous avez cité le blocage des prix depuis 1988. Mais depuis 1988, il existe une structure des prix que vous gérez en tant que ministre de l'Énergie. Et avec les partenaires, vous définissez les différentes structures des prix. Cette fois-ci, lors du dernier débat budgétaire, nous sommes partis sur la structure des prix et nous avons proposé des prix au gouvernement d'augmentation d'à peu près 20-25%. Le ministre des Finances nous a dit en pleine session qu'il y aura une commission élargie, des concertations élargies, c'est plutôt le terme qu'il a dit, concertation élargie pour fixer les prix. Et dans le discours du président de la République, il a dit qu'il a tout fait pour maintenir les prix à la pompe, mais qu'on ne peut pas tenir, c'est une situation qui est intenable et que des réflexions sont en cours. 48 heures après, il y a un arrêté qui n'évoque pas la structure des prix. Donc on ne sait pas quels sont les éléments constitutifs du prix. Quel est le prix de la matière de base, c'est-à-dire le carburant, et puis le coût additionnel, et quelle est la marge de l'État. Parce qu'un État est fait pour arbitrer les intérêts. Les intérêts de l'État doivent être préservés, les intérêts des marketeurs doivent être préservés, parce que sinon, ils ne fonctionnent plus. Les intérêts de la population aussi doivent être préservés.
Et les trois intérêts, c'est pourquoi nous sommes là pour
Et ça, ça rentre dans des mesures d'accompagnement. Les mesures d'accompagnement, ce n'est pas seulement pour dire qu'il faut augmenter les prix. Je suis le premier à savoir que parler d'augmentation des salaires, parce que je suis bien placé pour savoir que parler d'augmentation de salaire, dans la conjoncture économique actuelle, il faut y réfléchir deux fois. Mais il y a autre chose que l'augmentation des salaires. Il y a le contingentement des prix, puis il y a aussi une politique bonne gouvernance.
On y revient, M. Ziguele.
Et sur ce plan-là, j'aurais aimé vraiment que le ministre des Finances soit là. Parce qu'on lui a
malheureusement,
donné toutes les
malheureusement,
pistes,
nous allons tout faire.
Les pistes
nous allons
de récupération des ressources de l'État qui est une vraie gruyère. C'est vraiment...
Nous allons tout faire prochainement pour avoir peut-être le Premier ministre pour la première fois, hein, pour pouvoir expliquer sa politique. Mais déjà, nous avons M. Piri qui est là, qui conduit le ministère du développement de l'hydraulique et de l'énergie en République centrafricaine. Monsieur le ministre, vous voulez rebondir sur certaines questions posées par M. Ziguele?
Oui, merci M. Armando. Je remercie d'abord le président Ziguele qui a reconnu ce que nous avons évoqué. Et c'est ça la grandeur, c'est ça un homme d'État hein, l'augmentation de prix, la guerre en Ukraine, tout et tout, sur le marché international, l'augmentation du prix à la pompe devient une évidence. Ça, nous sommes d'accord. Maintenant, vous savez, la gestion du pays, ça, il le sait très bien, la gestion du pays, on ne prend pas des décisions à la légère. On ne prend pas des décisions dans la précipitation. Quand le président de la République a annoncé, et il a relevé, 48 heures après, les prix sont sortis, il y a un travail qui a commencé il y a longtemps, coordonné par le Premier ministre, chef du gouvernement. Il y a plus de 7 ministres dans un petit comité mis en place, et tous les jours, le Premier ministre reçoit ce comité-là. Je peux citer, il y a moi-même le ministre de l'Énergie, il y a le ministre de la Communication, le ministre du Commerce, le ministre du Travail, le ministre de la Fonction Publique, le ministre des Transports, le ministre des Mines et le ministre des Finances qui se trouve à l'extérieur. Tous ces ministres-là travaillent sous la coordination du Premier ministre, chacun dans son domaine pour explorer. Effectivement, la structure de prix que vous avez proposée, il y a des écueils. Nous avons aussi travaillé en tenant compte des propositions de cette structure de prix. Nous avons eu à analyser point par point, ligne par ligne, rubrique par rubrique. Parce que quand vous constatez 1300 super, on donne pas ça comme ça. Il y a des éléments constitutifs de ce prix-là. Donc ça existe bel et bien. Mais, vous savez, nous sommes en train de gérer l'État. Et on ne peut pas se lever comme ça, prendre une décision. Il y a eu plusieurs simulations. Je peux vous dire que les prix retenus relève de notre cinquième simulation. Il y a eu plusieurs simulations.
Avec 50% d'augmentation comme...
Non, c'est plus de 50%.
Plus de 50% d'augmentation, vous ne pensez pas que c'est grave?
Mais c'est la réalité des prix. Le président Ziguiri l'a relevé, il fallait augmenter. C'est la réalité des prix. On ne peut pas continuer à mentir.
Augmenter, oui, mais jusqu'à plus de 50%.
Je dis rétablir la vérité des prix. Qu'est-ce qui se passe, si vous voulez? Je rappelle ici que nous importons nos produits pétroliers en utilisant deux voies. Voie RDC, où nous importons les 80%. Alors, pour RDC, je prends un exemple précis. Un produit qui vient et mis en consommation au niveau de RDC arrive au port de Matadi et s'est mis en consommation. Donc, le coût d'achat plus les frais maritimes s'arrête au niveau du port de Matadi. Notre produit, qu'est-ce qui se passe? Ça quitte le port de Matadi, ça va au port de Ngo-Ngo. Ça quitte le port de Ngo-Ngo, ça va au niveau de Sept-Congo. Ça quitte Sept-Congo maintenant pour que Socatraf puisse nous remonter ça ici. Les prix sont élevés. Ça, c'est très clair. Et la structuration de prix tient compte de ces paramètres-là. Aujourd'hui, quand vous prenez les produits sur le marché international en faisant le cheminement que je viens d'expliquer pour arriver ici en RCA, ça, c'est pas l'État qui achète, ce sont les marketeurs. Vous allez vous rendre compte que le prix rendu ici déjà à Bangui par les marketeurs presque déjà est 1000 francs. Mais vous ajoutez maintenant la marge des marketeurs, vous ajoutez maintenant les différentes taxes de l'État, c'est une évidence, c'est la réalité.
Maintenant, on va voir les intérêts du gouvernement avant de voir les autres intérêts, parce que certainement, dans tout ce que vous avez fait, le gouvernement doit tirer profit. Et quels en sont les bénéfices pour le gouvernement?
Le président Ziguiri l'a relevé ici. Et là, je suis d'accord avec lui. Dans la structuration de prix, les marketeurs, qui sont des hommes d'affaires, qui achètent leurs produits pour venir vendre, ils doivent avoir leur marge.
Et qu'ils ont mis la pression sur le gouvernement?
Non, c'est une marge définie légalement par des textes qui existent. Je crois un marketeur doit avoir, je ne sais pas si c'est 30 francs par litre, ça c'est le marketeur qui importe. Au niveau des marketeurs qui ont des stations, je crois que c'est 7 francs par litre. Ça c'est défini dans la structuration de prix. Maintenant, pour l'État, ce sont les différents droits et taxes. Vous avez la douane, vous avez la TVA, vous avez la RUR pour les redevances, vous avez la TUPP, vous avez les différentes rubriques là. Ça, c'est la loi. C'est la loi. Je vous rappelle qu'il y a une loi qui organise ce secteur pétrolier aval. Donc, la structuration du prix tient compte de tout ça là. Mais le point de départ de la structuration du prix, c'est quoi? C'est le prix rendu Colongo. Le prix rendu Colongo, on appelle ça le prix CAF. Ça, le président Ziguiri le sait très bien. C'est le prix CAF. Ça veut dire que c'est le marketeur lui-même qui achète son produit, qui paye le transport, qui ramène ça au niveau de Colongo. Et c'est à partir de Colongo qu'on déroule maintenant la structuration de prix. À partir du moment où, si le prix arrivé à Colongo est moins cher, le prix à la pompe devrait être moins cher. Or, le prix arrivé à Colongo est très élevé par les marketeurs. Mais les prix à la pompe sont demeurés, puis avant 1988, il n'y a pas eu d'augmentation. C'est l'État qui subventionne. Si vous voulez les chiffres, je peux vous donner les chiffres après.
Mais par oui, litre, c'est important les chiffres.
Par litre, l'État subventionne plus de 400 francs sur le super.
Et à l'heure où nous sommes?
À l'heure où nous sommes, l'État subventionne par litre. Quand vous vendez, vous achetez.
À l'heure où nous sommes avec le nouveau prix, est-ce que le, puisque vous avez dit que le gouvernement ne subventionne plus.
Non, il y a deux situations. Avant l'augmentation de prix, le prix affiché à la pompe était de super 865 francs. Si vous prenez 865 francs, il faut ajouter plus de 435 francs pour avoir le prix réel.
De ce que, ce qui est actuellement?
Non, pas ce qui est actuellement. Je vous explique. Quand vous prenez le prix 865 francs à la pompe, le prix réel, il faut ajouter 435 francs que l'État déboursait. Je vous donne. Vous achetez un litre de super à 865 francs. Le marketeur encaisse les 865 francs. Mais ce n'est pas le prix. Il faut maintenant compléter avec 435 francs.
C'est ce que le gouvernement fait depuis 1988.
Voilà. Sur le gasoil, vous achetez à 855 francs. Le marketeur achète. Mais le gouvernement sort 595 francs.
Est-ce qu'actuellement, avec ce nouveau prix, est-ce que le gouvernement continue de sortir de l'argent pour compléter?
Non, avec ce prix-là...
Non, c'est la population qui subit directement.
Non, ce n'est pas la population qui subit. Ça, il faut rectifier cela. Dites-moi pourquoi le gouvernement aussi... Quelle est la part de la population à ce niveau-là? Vous savez... Ce prix qui a augmenté là, qui a subi? C'est la population. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sauver la population. Vous êtes d'accord avec moi avec la réalité du prix parce que les marketeurs vendaient à perte à la pompe parce que l'État n'avait pas les moyens pour leur verser automatiquement les subventions. Ils accumulaient les dettes et ils ont commencé à freiner les importations. Vous et moi, nous avons commencé à assister à des importations frauduleuses. Voilà. Donc la population ne suivit pas ça.
C'est une solution définitive.
C'est pour sauver la population.
D'accord. On écoute M. Ziguele sur les explications de M. Piri.
J'espère que vous me laisserez parler.
Oui, oui, non, oui, oui, je chronomètre, ne vous en faites.
Moi, je voudrais repréciser que sur le plan du principe de l'augmentation des prix, ça fait pratiquement un an que je dis, moi, Ziguele, en tant que député, en tant que citoyen, en tant que financier, que c'est inéluctable. Je répète le reproche, il faut anticiper, parce que gouverner, c'est prévoir. Maintenant, le diable est dans le détail. Lorsque le ministre Piri évoque la structure des prix, je veux avoir sous les yeux la structure des prix qui fait que le prix du gazoil est à 1450 francs pour voir le prix flat à l'importation, c'est-à-dire le prix international sur le marché international, les différents frais d'approche, le prix CAF, dépôt, Colongo, Bangui ou dépôt sur Salou Anoura. Et puis maintenant, les différents facteurs qui sont venus dessus. Parce que, comme je le dis, lorsque vous gouvernez pour l'ensemble des Centrafricains, monsieur le ministre. Supposez que moi, Ziguele, je sois au SMIG. C'est-à-dire, vous avez mis le SMIG l'année passée à 30 000 et moi, j'étais le premier à féliciter le gouvernement pour ça. Parce que c'est la première fois que ça bouge depuis plus de 30 ans. Mais si un Centrafricain qui a le SMIG de 30 000 francs par mois, ça veut dire qu'il a un salaire journalier de 1 000 francs. C'est ça que ça veut dire. Et s'il a une vieille mobilette qu'un parent lui a donnée ou bien qu'il a achetée d'occasion et qu'il doit mettre un litre d'essence chaque jour pour aller au travail, il doit acheter ce litre d'essence à 1350 fois 30 jours à supposer qu'il ne travaille pas dimanche, donc il reste 26 jours fois 1350, vous voyez, nous sommes déjà à 30 000. Maintenant, ce même Mika, il n'a pas d'électricité chez lui, il doit acheter du pétrole lampant pour mettre dans sa lampe à pétrole pour s'éclairer. Il doit acheter au lieu de 500 francs à 1150 francs, si j'ai bien entendu. Etc. Les prix ont augmenté en moyenne de 76%. Et je pèse mes mots. Depuis l'indépendance de la RCA, on n'a jamais vu ça. Qu'est-ce que je reproche au gouvernement? Je ne reproche pas au gouvernement d'avoir augmenté les prix. Je reproche au gouvernement de ne pas avoir anticipé et de ne pas avoir été transparent. Quand vous mettez un comité de 7 ministres pour déterminer la structure des prix et que vous arrivez à des augmentations sur le pétrole qui va à 130%, sur l'essence à 57%, à 69%. Et c'est quand il y a la réaction des uns et des autres que vous avez annoncé, et je vous ai suivi à la radio hier, que vous allez mettre en place maintenant des commissions pour réfléchir sur les conséquences. Ça pose problème quand
même. Mais ce comité, c'est ce que...
Hier, j'ai entendu qu'il y avait un comité avec les partenaires sociaux. Voilà, c'est avant qu'il fallait faire ça. Et il fallait associer aussi l'Assemblée nationale parce que c'est la représentation populaire. Pour qu'on puisse accompagner le gouvernement dans cette démarche qui est indispensable, je le répète pour une cinquième fois. Mais sur le fond et sur la forme, vous n'avez pas suivi le chemin d'un gouvernement qui agit en toute responsabilité et qui regarde toute la population. C'est ça le problème. Je vais vous rappeler quelque chose qui va vous faire réfléchir. Quand j'étais au lycée, quand j'allais en vacances à Pauwa, je payais 2500 francs, 500 km le quart pour aller à Pauwa. C'était 5 francs le kilomètre. Au moment où je vous parle, monsieur le ministre, en sortant de ce studio, vous pouvez vérifier, appeler des compatriotes, vous allez vérifier. Quand vous prenez un véhicule à Pauwa, quand vous en trouvez, sinon c'est une moto, pour arriver à Bangui, si vous avez payé moins de 30 000 francs,
vous avez beaucoup de chance. 30 000 francs. Ce qui revient en fait à ce que le prix du kilomètre est à 60 francs. Maintenant, avec l'augmentation du carburant, je vous mets ma main au feu que nous arriverons peut-être à 50 000 francs, c'est-à-dire 100 francs le kilomètre. Qui paye ça? Qui paye ça? C'est pas moi, c'est pas vous. C'est le paysan qui quitte là-bas pour venir faire sa carte d'identité. C'est celui qui vient rendre visite à un parent qui va à Bangassou, à Sibut ou je sais pas où. C'est pour ça que j'ai dit que ce que j'ai vu, je ne suis pas Dieu, je n'ai rien inventé. Ce que je vous dis, vous le savez aussi. Dans tous les pays où il y a eu ce processus d'augmentation des prix, il y a eu une démarche paritaire, concertée, avec les partenaires sociaux.
En amont.
En amont. Le gouvernement, parce que c'est vous qui dirigez le pays, donc vous êtes l'exécutif. Vous constituez un noyau, puis il y a le patronat, parce que c'est eux qui produisent et qui vendent. Puis il y a les consommateurs, parce que c'est eux qui payent finalement. Et les syndicats des travailleurs, etc. Et vous n'arrivez pas forcément à être d'accord. Mais ça permet au gouvernement de voir jusqu'où les gens sont capables d'aller. Et ça permet, comme on dit, de prendre le pouls de ce qui est acceptable ou de ce qui n'est pas acceptable et puis d'arriver à une conclusion. C'est ça que je vous reproche. Je ne vous reproche pas d'avoir augmenté les prix. Je vous reproche sur la forme et le fond et le quantum. C'est pour ça que je vous enjoins. Je vous enjoins. Je suis encore gêné de parler à vous et pas au Premier ministre. Il faut qu'il publie la structure des prix. Et que lui, en tant que chef de gouvernement, parce que c'est une crise nationale, il faut qu'il défende chaque élément de la structure des prix. Il va souvent à la radio parler, à la télé, mais qu'il aille parler à la radio et à la télé pour expliquer aux Centrafricains. Pas Piri, le Premier ministre. Voilà, ça, on a fait ça. Lui qui a dit qu'il allait en Russie pour nous ramener du carburant. Maintenant, on vous envoie pour venir nous expliquer ce qui est inexplicable et inacceptable. Moi, je ne peux pas accepter que dans un pays où on n'augmente pas les salaires, on augmente le carburant de 80%, même si je sais que l'augmentation est inévitable. La question que tout le monde se pose, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire, pourquoi j'ai demandé que le ministre des Finances soit là? Vous êtes un fonctionnaire des finances, Monsieur Piri. Vous êtes inspecteur des impôts. Vous êtes même diplômé de l'école nationale d'administration de Yaoundé, qui est une école très forte. Je sais ce que vous savez aussi. Vous savez que nos finances publiques, c'est une véritable mafia. Vous le savez. Les ressources de l'État sont pillées, pillées. C'est à qui mieux mieux. Je suis venu ici avec le tableau de recettes qui sont inscrites au budget de l'État pour 2023. Je vais vous lire très rapidement. La ligne 72-256, carte nationale d'identité et divers actes d'État civil. Recettes prévues pour 2023, 7 millions. 7 millions. Les Centrafricains vont à El Madina payer 6 500 francs la carte d'identité. Chaque Centrafricain. 50 000 francs le passeport. Les prévisions de reversement à l'État, c'est 7 millions. Nous avons écrit au ministre des Finances pour lui demander combien il a perçu. Il dit qu'il n'a jamais eu de recettes sur les cartes d'identité et les passeports, etc. C'est là où il y a l'argent de l'État. Les cigarettes. Il y a un trafic de cigarettes de seconde qualité qui fait perdre à l'État. Et nous avons calculé à la Commission Finances. Après enquête, 2021-2022, ça a fait perdre à l'État 10 milliards de francs. Vous prenez le sucre, depuis que Sucre a fait en faillite. Vous, M. Piri, vous êtes membre du gouvernement, je suis sûr que vous ne savez pas qui est importateur de sucre aujourd'hui. C'est le désordre total.
Vous en faites 2 milliards de
plus. Et on ne sait pas combien... Tout ce que je vous dis là, la commission finance a posé la question, à part écrit au ministre des Finances, nous sommes en train d'attendre la réponse. Ce n'est pas la population qu'il faut taxer. Parce que ce que vous l'avez fait en tant que ministre. Par solidarité gouvernementale, vous êtes venu ici défendre l'indéfendable. Vous avez tapé sur les petits peuples, prendre le maximum. Alors que là où il y a des syndicats organisés qui pillent l'argent de l'État et vous aussi du monde, c'est là-bas qu'il faut aller chercher.
Vous avez 2 minutes, c'est presque 3 minutes, 2 minutes 50 secondes de plus sur M. Piri. Voilà. Vous reprenez la parole pour rebondir, pour qu'on puisse entamer d'autres sujets, monsieur.
Je rappelle ceci, la structuration de prix existe. Et ça, c'est moi qui gère ça. Chaque mois, j'ai un comité composé de mes cadres, finances, un peu partout, transport, la structuration des prix, les éléments du prix, les éléments détaillés du prix à la pompe existent bel et bien. Ça, il n'y a pas de tricherie à ce niveau-là, ce sont des calculs.
Non, je ne vais pas parler de tricherie.
D'accord, merci.
J'ai dit que vous avez gonflé les ressources de l'État pour récupérer des marges budgétaires disparues. Et comme la population endosse tout,
est-ce que vous avez fait passer la pilule. Est-ce que je peux... Continuez. Votre connaît...
Merci.
Merci.
Merci. Le président de la République a mis en place ce comité depuis. Ce comité a travaillé depuis longtemps. Le ministre de Transport a rencontré le syndicat des transporteurs, de taxis, motos. Le syndicat de transporteurs, de taxis et des bus, le syndicat de transporteurs, des routiers, il a travaillé avec eux. Si vous avez suivi sur les ondes, Les membres de ces syndicats-là même sont en train de faire des sensibilisations parce qu'ils ont été associés. Ça, je suis très clair là. Ils ont été associés.
Il y avait eu quelques remous ces deux derniers jours.
Non, c'est la récupération.
C'est la récupération.
C'est la récupération politique. Ceux qui sont sortis. Vous savez, je vous donne un élément précis. Quand quelqu'un veut se mettre en grève, il ne sort pas son véhicule. Il garde son véhicule chez lui à la maison. Il garde ses motos à la maison.
Si c'est des taxis.
Si c'est des taxis, il garde son taxi. Mais quelqu'un qui prend son taxi, qui sort pour aller travailler et vous l'empêchez, et vous dites ça c'est la grève, ça c'est la manipulation politique. Les taximans, les chauffeurs de bus sont sortis pour travailler parce que le syndicat, tout le monde, ils ont été associés. Et les gens ont voulu faire la récupération politique parce que les gens veulent tout politiser. Alors, il y a un comité. Sur le plan travail, je vous dis que, je rassure le président Ziguele, que le ministre de la fonction publique travaille avec les syndicats. Le ministre du Travail...
Oui, sur quoi précisément?
Oui, mais sur toutes les questions d'accompagnement, de réglage, et tout. Le ministre de la fonction publique travaille depuis sur cette question. Et il est avec le ministre du Travail. Ils ont engagé des discussions avec les syndicats depuis longtemps sur cette question. Et chaque ministre ici, dans ce comité-là, travaille dans son secteur. Donc, on n'est pas en train de spolier la population, on n'est pas en train de prendre à partie la population, non. Je vous dis, il y a un élément déterminant, et ça c'est technique. Ça, le président Ziguel le sait. Les prix plates, ça veut dire que ce sont des prix références internationales. Quand vous achetez les produits, je vous donne un exemple clair. Vous achetez un litre de super, vous amenez jusqu'au niveau de Colongo, le litre de super vous tourne déjà au presque 900 francs. 900 francs, 900 et quelques. Ça, c'est le marketeur lui-même, c'est le commerçant, l'opérateur économique Total, Tradex ou autre qui apporte son produit jusqu'au niveau de Colongo. Ça tourne autour de presque 800 et quelques, 900. 900 et quelques. Il met son marge. Il met le marge de bénéficiaire. Maintenant, il y a la loi qui organise ce secteur-là. La structuration de prix, c'est que on décline maintenant, rubrique par rubrique. On décline et on fait la somme. C'est arithmétique et c'est des calculs.
Mais est-ce que vous aurez l'occasion, par exemple, comme a dit M. Ziguele, ou bien le Premier ministre, de publier pour la transparence, pour éclairer la lanterne de la population, ce que vous avez dit?
Je vous répète encore, la structuration de prix existe. Je vous dis qu'on a fait plusieurs scénarios. On fait les scénarios comment? On pose le prix, CAF, on met les marges, on aligne les éléments de la structuration de prix. Je vais vous dire une chose claire. Ce prix-là, en fait, on a encore fait des simulations pour réduire tel pourcent sur telle recette de l'État.
C'est pourquoi la publication de ce prix-là...
Ça existe. Je vous dis que ça existe. C'est officiel. La structuration de prix, c'est des membres de plusieurs ministères qui se réunissent.
Voilà, deux minutes encore de plus. Vous avez déjà fait plus que M. Ziguele.
Non, mais je n'ai pas fait plus que le président Ziguele.
Oui, je vous ai noté.
J'ai calculé le temps.
Non, vous n'avez pas le chrono. Calmez-vous. Vous avez vu, mais vous avez vu. Bon, avant de poursuivre la discussion démocratique, je vous invite d'écouter le coordinateur de l'association des consommateurs qui s'inquiète de cette pratique sans concertation avec le syndicat, Marcel Moukwapi.
Nous regrettons que dans le dispositif de discussion de cette situation, tous les acteurs concernés ne sont pas associés, notamment nous, les structures qui assurons la protection des consommateurs. On n'est pas associés parce qu'il faut qu'il y ait un consensus. Nous sommes d'accord pour que l'État cherche les moyens pour compenser ce manque de subventions. Mais le consensus se dégage sur quoi? Est-ce que le pouvoir d'achat des centrafricains, est-ce que c'est bien régulé? Est-ce que c'est bien suivi? Est-ce que ça correspond au coût de la vie? Le plus gros employeur ici, c'est l'État. Depuis des années, les salaires n'ont jamais été rehaussés. Et aujourd'hui, comme vous venez de le dire, les denrées alimentaires, sans parler de transport. Aujourd'hui, j'ai pris un taxi, on me dit que c'est 250 francs maintenant. Y a-t-il eu une bonne régulation de ces prix pour qu'on fasse une adéquation par rapport à cette augmentation? Parce qu'aujourd'hui, le carburant est un bien stratégique du fait que ça alimente beaucoup de choses. Les transporteurs, ça c'est le gros, parce qu'aujourd'hui, le secteur de transport doit être dynamique. Pour qu'il soit dynamique, il faut vraiment qu'il ait tout ce qui concerne justement le carburant et autres.
Voilà, c'était donc Marcel Moukwapi, président de l'association des consommateurs centrafricains. Monsieur Piri, les conséquences sont déjà immédiates sur la population. Les taxis de bus ont aussitôt augmenté le tarif de transport, ce qui risque d'engendrer la hausse des prix des denrées alimentaires sur le marché. Que faire actuellement pour calmer les esprits?
Il faut parler des avantages et des conséquences. On ne parle pas que des conséquences. C'est vrai. C'est que les prix, je vous rappelle que le ministre de Transport, je pense que
c'est imminent, il est en train de travailler avec ses techniciens, avec le syndicat des transporteurs, pour harmoniser, essayer un peu d'harmoniser les prix.
Et donc vous rejoignez M. Ziguele qui disait tout à l'heure que vous devez faire ça avant.
Mais c'est un travail qu'ils ont commencé il y a longtemps. Je vous ai dit que ce comité qui a été mis en place, ça fait plus de 2-3 mois que nous travaillons. Et ça fait plus de 2-3 mois que le syndicat travaille avec le ministère des Transports. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est, le problème, c'est peut-être, peut-être les députés, les élus auraient voulu avoir peut-être la composition de ce comité et tout, et tout, et tout, et tout. Bon, mais je vous rappelle que le Premier ministre, coordonnateur de ce comité, parce que chaque jour, nous rendons compte au Premier ministre, soit à la fin de l'heure, soit au début de la journée, pour essayer de faire le compte-rendu des démarches de gauche à droite. Donc, le ministre des Transports travaille, jusque c'est imminent, depuis longtemps, avec les transporteurs. Alors, quand on parle de beaucoup plus de conséquences, mais il faut parler aussi des avantages. La population, vous et moi, nous sommes dans la ville de Bangui. Et c'est ça que je félicite et je remercie le président Ziguele parce que lui, au moins, il vit ici. À contrario des gens qui restent à l'extérieur, qui font de la récupération politique, lui, il connaît la réalité. Lui, il vit ici. Quand il développe un argument proche de la vérité. Donc, vous et moi, et lui, tout le monde, nous étions dans ce pays. À un moment donné, on achetait le litre de carburant au quartier à combien? 1500 francs, 1700 francs, voire 2000 francs de carburant de mauvaise qualité. Et à un moment donné, face à cette situation, il y avait des importations frauduleuses partout, stockées dans des quartiers. Vous êtes d'accord avec moi? Des maisons prennent feu, et on assistait à des cas d'incendie, des ceci, cela. Donc, le problème, c'est que quand on a rétabli la vérité de prix à la pompe, ça permet, un, d'avoir des produits de bonne qualité. Deux, ça permet maintenant aux marketeurs de ravitailler régulièrement le pays. Ça permet à l'État de collecter les ressources. Ça permet également aux véhicules d'avoir des produits de bonne qualité pour ne pas bousiller leur moteur. Et ça permet également aux véhicules de desservir l'arrière-pays, de circuler et d'avoir des produits de bonne qualité. Pourquoi on se focalise simplement sur les conséquences?
Vous, ce sont les avantages.
Les avantages.
De cette augmentation.
Cette augmentation. Je vous rappelle encore que le ministre du Travail, le ministre de la Fonction publique, depuis, je crois, plusieurs mois, dans le cadre du dialogue social, travaille avec les partenaires sociaux, c'est-à-dire les centrales syndicales.
Mais que dites-vous de cet extrait que vous venez d'écouter de M. Moukapi
M. Moukapi qui se plaint. Moi-même, j'ai reçu certains membres de l'association de consommateurs. Je les ai reçus. Bon, le monsieur Moukapi, c'est le président, mais c'est pas moi qui gère cette association-là. Mais moi, je vous rassure que j'ai reçu certains membres et qui sont convaincus. Quand on leur a donné les explications, c'est la semaine passée que je les ai reçus, ils ont compris, et ils sont en train de faire un travail auprès de la
consommation. Monsieur Ziguele, vous, consommateurs. Vous reprenez la parole, vous avez 4 minutes pour parler de la situation, parler des conséquences déjà immédiates, constatées sur le terrain déjà. Par la population.
J'ai noté que les débats étaient en cours avec les partenaires sociaux, le ministère du Travail, de la Fonction publique, et en même temps, il nous dit que les syndicats sont déjà d'accord sur ce qui a été
fait. Oui, suivez les médias, monsieur.
Je ne sais pas si je n'ai pas bien compris, mais je voudrais juste rappeler, la RCA, 70% à peu près de sa population est active, c'est-à-dire il y a 3,5 millions de Centrafricains qui sont adultes, qui travaillent la terre, l'élevage, la pêche, qui circulent, qui consomment forcément, et qui sont impactés par l'augmentation des prix qui touche une denrée dont le prix est structurant, comme les hydrocarbures. Là, je pense que nous sommes d'accord là-dessus. Donc, il ne faut pas limiter ça aux fonctionnaires ou au personnel du secteur privé. Fonctionnaires centrafricains, ça fait 20 000 personnes. Secteur privé, c'est à peu près la même chose. Ça dit 40 000 sur 5 millions de personnes. Mais ceux qui vivent et travaillent tous les jours, les Boubangiri, les Taxi Moto, les Koliwa Ligara, les gens qui vont au champ comme moi, etc., mais on paye du carburant, monsieur le ministre. Si ça. C'est peut-être que vous n'achetez plus du carburant, mais moi j'en achète tous les jours. Et quand j'achète 200 litres de carburant à 160 000 et que le lendemain je vais acheter et que c'est 290 000, j'achète toujours, mais je commence à me poser la question de savoir est-ce que ce que je fais demain sera rentable. Donc on parle des conséquences sur le consommateur unique, on pense de conséquences sur l'actif, c'est-à-dire le citoyen actif, sur les ménages, mais parlons un peu de conséquences sur les entreprises. Vous savez qu'en tant que ministre de l'énergie, ça ne date pas de vous, je ne dis pas ça, mais la crise, il existe une crise de l'énergie, carburant, d'électricité. Les entreprises se sont reconverties un peu à l'utilisation des groupes électrogènes de grande puissance dont ils achètent du fioul lourd, du gazoil, etc. Et vous savez comme moi, puisque vous êtes à la base fiscaliste et comptable, vous savez comme moi qu'une entreprise, elle travaille pour gagner de l'argent. S'il y a des charges qui explosent, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche à diminuer les postes
où il y a beaucoup de chars. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il y aura des réductions d'effectifs du personnel ou au moins des chômages techniques. C'est pour ça que je pense qu'on est toujours intelligent à plusieurs. On est toujours intelligent à plusieurs. Ce que je vous suis en train de vous dire, si vous ne l'acceptez pas, c'est pas grave. Mais les Centrafricains qui m'entendent doivent comprendre ça. Lorsque vous prenez une décision chez vous à la maison, vous sortez le matin, vous dites vous ne donnez plus l'argent de manger à votre épouse parce que vous êtes mécontent pour telle ou telle raison. La conséquence, ce n'est pas M. Pirou ou Mme Piri, c'est les enfants. C'est les parents qui viennent aussi par manque de moyens manger chez vous et tout. C'est-à-dire la conséquence, la décision que vous prenez aujourd'hui, les conséquences, il faut mettre du temps pour voir la répercussion. C'est comme les ondes sur l'eau. Quand vous criez sur l'eau, le son va plus loin que si vous criez dans la forêt. C'est pour ça que si Dieu vous a donné la faculté de diriger les Centrafricains, je ne parle pas de vous, je parle du gouvernement et de votre Premier ministre, et au-delà du chef d'État. Il faut anticiper dans la démarche et dans la concertation. Ça ne coûte rien. Mais comme je l'avais dit tantôt, ça permet de voir tous les aspects des conséquences possibles de cela. Parce qu'aujourd'hui, cette décision-là, elle aura des impacts économiques lourds. Ça, vous le savez. Vous, M. Piri, vous le savez. Elle aura des impacts économiques lourds. C'est pour ça que, pour que le peuple peut-être accepte les efforts, les mesures d'accompagnement que vous avez, publiez la structure des prix. On n'a pas dit que ça n'existe pas, on dit que ça existe. Moi, je sais que ça existe. Puisque je l'ai vu, je sais que ça existe. Publiez ça et justifiez poste par poste ce que vous avez mis dans les différentes lignes. Parce que je suis convaincu qu'on a chargé le baudet, c'est-à-dire qu'on a mis plus pour l'État, pour permettre de résoudre par ailleurs les problèmes budgétaires que vous avez évoqués hier et qui sont réels. Mais je vous donne comme élément de réflexion, puisque vous êtes à la fois membre du gouvernement et à la fois numéro 3 du MCU, il faut reprendre à main les finances publiques de la RCA. Si vous voulez vous en sortir, franchement, parce que les finances publiques de la RCA, c'est une pétaudière, c'est une mafia, c'est une gangrène. Nous, si vous prenez uniquement le taux de base de convergence de la CEMA, uniquement 17% du PIB comme indicateur, hein, je ne dis même pas comme objectif. Nous devons avoir en ressources propres de l'État 272 milliards par an. Nous en sommes à 131. Il manque 141 milliards au compteur. Et ces 141 milliards, elles vont dans la poche des fraudeurs. Fraudeurs fonctionnaires, fraudeurs opérateurs économiques, en tout cas des gens qui s'entendent pour piller l'État. Je vous dis ça, pas à vous en tant qu'individu, parce que je n'ai aucun intérêt à m'en prendre à vous. Je ne dis pas ça pour m'en prendre à quelqu'un. Je dis ça parce que, quel que soit celui qui sera à la tête de l'État, il lui faut de l'argent pour faire fonctionner le pays.
Quelques secondes.
Et tant que le pays continuera à fonctionner comme ça, en pensant que c'est en cherchant des lentilles, des petits haricots sur terre qu'on va faire fonctionner l'État, non. L'argent se trouve dans la caisse de ceux qui ne veulent pas payer leurs impôts ou qui organisent des fraudes des fonctionnaires de l'État qui sont payés par l'État et qui organisent.
On va écouter Monsieur Pérez.
Et c'est ce qui fait que
on va écouter Monsieur Pérez.
Pour
Monsieur
se protéger, ils vont chez toi au parti au pouvoir. Ils vont là-bas pour se faire protéger parce que quand ils volent et que l'autorité de bonne gouvernance ou le tribunal veut les poursuivre, tu les protèges. Enfin, quand je dis tu, c'est pas toi, mais ça dit le système les protège. C'est aussi vieux que le monde, mais il faut être vigilant. Parce que plus la situation est difficile, plus il faut être vigilant.
Monsieur Piri, vous reprenez la...
Gratuit.
Oui, mais en attendant, Monsieur Piri, vous reprenez la parole.
Je rebondis sur la dernière préoccupation du président Zigué.
Oui, quelques secondes avant
qu'on puisse poser une autre question. Ça veut dire que nous avons marché ensemble sur l'angle politique avec le président Zigué pendant 5 ans.
Oui.
Donc pendant ce temps-là, vous étiez venu chercher de protection chez nous.
Non, non.
Parce que vous avez dit que ceux qui veulent venir chez nous, c'est pour chercher de protection.
Non, non, non.
Donc à un moment donné, vous étiez protégé chez nous.
Je n'en ai pas besoin.
Bon, voilà. Donc si vous n'en avez pas besoin, c'est que ceux qui veulent militer au sein du MCU, c'est une conviction que vous le savez très bien. Chacun dans un pays a ses convictions personnelles qui peut militer dans tel ou tel parti. Donc sur ce plan-là, je vous crois, je sais que vous savez ça. Les militants du MLPC sont convaincus de votre idéologie. Les militants du MCU
d'accord,
sont
passons aux hydrocarbures.
Donc ils ne sont pas venus chercher des protections. Ça,
à l'heure où nous sommes, M. Piri, peut-on affirmer qu'à part de ces nouveaux prix, il n'y aura plus de pénurie à la pompe?
La stratégie mise en place pour arriver à cette situation, je vous ai dit que nous l'avons commencé il y a longtemps. D'abord, avant de répondre à votre préoccupation, je rassure le président Zigué que si c'est pour publier les prix, les structures de prix, il n'y a aucun souci.
Justifié.
Ligne par ligne. Voilà. Ça, je suis d'accord avec vous. Et je vais vous donner encore quelques éléments. La structure de prix, on a diminué certaines rubriques de recettes de l'État pour arriver à ce prix-là. Parce que
tenir compte de la réalité, c'est un peu plus élevé. C'est presque 1400 le super. On a ramené à 1300. Donc, on a fait des sacrifices. Contrairement à ce que vous pensez qu'on a gonflé les rubriques de l'État, non. On a diminué certaines lignes. Et je vais vous donner les détails. Vous et moi, nous savons, nous connaissons cela parce que nous sommes du même ministère. Ce que vous dites, nous comprenons. Et la population doit connaître. La population doit comprendre la vérité. On n'a pas gonflé les lignes des rubriques de l'État. On a par contre diminué certaines rubriques pour tenir compte de la préoccupation de la population et pour arriver vraiment à ce prix dans l'intérêt de notre population. Voilà, c'est ce que je voulais rebondir là-dessus avant peut-être de prendre
votre préoccupation. Oui, continuez dans la question. C'est sûr, ce qui se passe en ce moment avec le nouveau prix, est-ce qu'il n'y aura plus de pénurie à la pompe?
Le Premier ministre a personnellement présidé plusieurs réunions. Et pour la première fois, le Premier ministre est venu au ministère de l'Énergie, s'asseoir au ministère de l'Énergie, présider une réunion avec tous les marketeurs. Et on a passé marketeur par marketeur, point par point, détail par détail, les cahiers de charges des marketeurs. Ensemble, vous savez, et l'importation, ça le président Mbidi le sait très bien, c'est des prévisions. Nous entamons déjà la campagne route. Tous les marketeurs nous ont dit, depuis que la vérité du prix a été rétablie à la pompe, au niveau de leur siège, ils ont donné des tops pour ravitailler le pays.
Donc il n'y aura plus de pénurie.
Il n'y aura plus de pénurie parce que les
marketeurs... Et vous y croyez?
Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que je vous dise qu'il y aura des pénuries? C'est ce que
je
vous
voulez m'entendre par vous.
Parce que
vous
êtes sûr? Mais j'insiste parce que justement, le président Ziguil a dit quelque chose tout à l'heure. Aujourd'hui aussi, la réflexion est en train d'être menée depuis quelques mois par l'État. Parce que, comme il le sait très bien, en 1994-95, par là, sous la pression des partenaires extérieurs, l'État s'est désengagé de ce secteur-là, en privatisant Petrouka. Tout. L'État s'est désengagé totalement. L'État, aujourd'hui, a laissé ce secteur entre les mains des privés qui importent le produit pétrolier pour la consommation de la population. Or, aujourd'hui, le président de la République a été très clair. Il a instruit le Premier ministre qui m'a instruit avec un comité des autres membres du gouvernement. Nous sommes en train de travailler pour que aussi l'État, hein, contrairement à ce que les partenaires financiers nous avaient fait le rien en 94-95, et nous nous retrouvons face à certaines réalités.
C'est pour parler de la ressuscité. Vous voulez ressusciter Petrouka, par exemple, c'est
nous
ça?
Sommes État, nous sommes en train de travailler. Le moment venu, nous allons travailler avec la proposition du président Ziguele, nous allons travailler avec les députés, nous allons mener la réflexion pour que l'État puisse véritablement avoir un œil, avoir un regard dans ce secteur.
Conséquence, qui tire profit de cette situation, de cette augmentation? Avant tout, j'écoute M. Ziguele sur ce point.
Non, je suis heureux que le
ministre Piré.
Je l'appelle Premier ministre, peut-être c'est Premier
ministre. Non, le Premier ministre, c'est Félix Mouloa.
Moi, je veux vous dire, vous êtes ministre, moi je ne suis pas ministre. Moi, j'ai des problèmes pour faire confiance à ce que votre Premier ministre dit. Il a dit à la télévision, à la radio, ce n'est pas Ziguele qui l'a dit. Parce que chaque fois que je parle, on me dit oui, c'est parce que je fais des procès. Il a dit à la radio et à la télévision qu'il allait à Moscou pour nous ramener des hydrocarbures.
Monsieur le Président.
Non, attendez. Je ne vous ai pas coupé. Attendez,
prenez note, vous allez répondre.
Donc, je préfère que vous, ministre de l'Énergie, vous me dites que vous avez discuté avec les marketeurs et que vous leur avez fait prendre des engagements sous peine de pénalité, que l'État ayant accepté le principe de l'augmentation. Pas le montant, parce que moi je n'accepte pas le montant. Le principe de l'augmentation qui s'engage également à fournir le territoire national. Pas seulement Bangui, mais le territoire national. Parce que vous le savez comme moi que dès Sibut ici, il n'y a pas de station. Dès Bossembélé, il n'y a pas de station. Bambari, il n'y a pas de station. Bangassou, il n'y a pas de station. C'est un problème qui dure et il faut que ce problème-là soit résolu. Je préfère que vous me dites que de parler de Premier ministre. Parce que le Premier ministre, il nous fait des promesses jusqu'à l'heure qu'il reste des promesses de Gascon. Et moi, je ne suis pas à l'âge où je suis, je ne crois plus au Père Noël. Donc, quand on me parle de projet, je ne suis pas là-dedans. Deuxièmement, vous savez que nous avons des engagements avec les partenaires techniques et financiers et par rapport à la rationalisation de la structure d'importation de carburant, il faut que vous preniez toutes les précautions dans les démarches. Je le dis pourquoi? Parce que la Société Centrafricaine des Dépôts Pétroliers, je ne sais pas si vous le savez, en tant que ministre de l'Énergie, l'État a cautionné, garanti des emprunts qu'ils ont faits pour créer des bacs de stockage, des tankers de stockage. L'argent a été détourné par les opérateurs avec la complicité des dirigeants de l'entreposage des dépôts pétroliers. Et jusqu'à aujourd'hui, ça explique en partie les problèmes de pénurie de carburant parce qu'il y a des problèmes de stockage. Je vous dis ça en tant que citoyen. Donc, quand vous avez évoqué le fait que les gens... est-ce pourquoi j'ai dit que les gens...
vous rejoindre pour se protéger, vous aurez dû vous poser la question de savoir pourquoi il dit ça, il parle de quoi. Ne dites pas non, il a dit ça, pourquoi? Parce que lui, il était allié. Mais j'étais allié et vous êtes président, c'est bien, non? Est-ce que vous allez vous en plaindre? J'étais allié avec vous, maintenant vous êtes au gouvernement, vous devez être content et même me féliciter de vous avoir aidé à être ce que vous êtes. Donc, il faut chercher à savoir pourquoi la personne dit ça. Monsieur le ministre, très sérieusement, quand vous augmentez le prix de carburant, vous gagnez peut-être 1 milliard, 2 milliards, c'est pas mal, c'est pas bien, c'est pas mal. Mais il faut savoir qu'on aurait pu épargner une telle marge de hausse si on regardait dans les ressources de l'État. Je ne parle pas des dépenses. Vous êtes financier. Vous savez que pratiquement toutes les ressources qui sont collectées aujourd'hui à l'intérieur du pays n'arrivent pas en cash au trésor à Bangui. Vous le savez. Pourquoi on ne parle pas de ces choses-là? Pourquoi on va taxer les pauvres?
Monsieur Piri, reprenez rapidement. Le temps nous fait de fois, voilà. Je vous en prie. Reprenez, comme ça on va boucler.
Oui, je suis en partie d'accord avec le président Ziguélé, mais nous ne sommes pas là en train de taxer les pauvres, monsieur le président. Nous ne sommes pas là en train de taxer les pauvres. Nous sommes en train de rétablir l'équilibre au niveau de la pompe dans l'intérêt justement de cette population qui pendant longtemps avait des produits frélatés, n'arrivait pas et qui allait acheter des produits de mauvaise qualité au quartier et tout et tout et tout. C'est pour et qui faisait l'objet des incendies un peu partout. Donc, c'est pour protéger cette population. J'insiste, je parle du Premier ministre parce que je suis membre du gouvernement et c'est lui qui coordonne mes actions.
Et vous avez raison.
De mes activités.
Vous avez tout à fait raison.
D'accord. Donc, le Premier ministre a présidé une réunion. Effectivement, les points que vous venez d'évoquer, monsieur le président, effectivement, c'était les mots forts du Premier ministre aux marketeurs. Un, la réouverture tout de suite et immédiate des stations de la ville de Bangui. Deux, devant nous, ils ont pris des engagements. Il y a des stations déjà terminées au niveau de Boire, au niveau de Bossambélé et autres qui doivent, on doit travailler avec eux pour que dans ces jours-là, que ces stations-là puissent être opérationnelles. Au niveau de nos provinces, ils ont un cahier des charges. Ils ne sont pas des marketeurs de Bangui, ils sont des marketeurs de la République centrafricaine. Des engagements avaient été pris et des instructions très claires avaient été données à ces marketeurs-là. Donc, ce que vous dites, c'est exactement ce que le Premier ministre Moloa était venu dans mon bureau. Pour la première fois, le Premier ministre est venu dans mon bureau pour justement revenir sur ce...
Mais le temps fait défaut par rapport à votre temps.
Apparemment, vous ne me donnez pas assez de temps.
Non, je suis chronomètre. Mais vous voyez le chrono sous vos yeux.
Mais le dépôt de stockage, monsieur le Président, nous n'avons pas d'un problème de dépôt de stockage. La consommation annuelle de la République centrafricaine varie entre 130 à 160 000 mètres cubes. Le dépôt de stockage du Kolongo, ça fait presque 50 000 mètres cubes. Donc, avec la question de renouvellement de stock, la question de stockage de produits ne se pose pas. C'est cette difficulté de rareté de produits qui nous fait défaut. Aujourd'hui,
pourquoi on a construit alors le dépôt qui n'est pas fini?
Non, le dépôt est fini.
Ah, c'est
Non, c'est fini depuis. Le président de la République a inauguré cela. Mais monsieur le président, moi je croyais que vous êtes ici en République centrafricaine.
Je suis toujours là.
Mais justement.
Sauf que je n'ai pas vu ça.
Certaines bonnes informations, vous n'en parlez pas alors que vous êtes ici.
Non,
le dépôt a été inauguré depuis 2018, si je ne me trompe pas.
Que quand il y a une mesure qui se justifie, je dis c'est juste.
Voilà, c'est là où je vous remercie beaucoup.
Je dis ce n'est pas juste.
Monsieur Ziguélé,
j'ai dépassé l'âge de plaire.
Monsieur Piri.
Donc je dis ce que
désolé, le temps nous fait de faux. Nous voilà à la fin de cette émission politique sur Radio Ndekeluka. Nous avons parlé des raisons de l'augmentation des prix de carburant et de ses conséquences sur la population dans l'avenir. Nous avons reçu toutes vos réactions orales écrites et tout est pris en compte dans ce débat. J'espère que vous avez eu quelques réponses à vos préoccupations. Merci à nos auditeurs de 20 préfectures de la République africaine et du monde entier qui nous ont suivis. Merci à nos deux invités d'avoir pris part à ce débat. Voudrez-vous bien souhaiter bonne année à vos proches avant qu'on ne se sépare? D'abord, monsieur Ziguélé.
Bonne année une fois de plus au ministre Piri, à vous-même, à tous vos collègues et à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs.
Monsieur Piré.
Bonne année d'abord au président de la République, chef de l'État, à sa famille. Bonne année au Premier ministre, aux membres du gouvernement. Bonne année au président Ziguélé, qui vit, merci, comme je le répète, qui reste dans ce pays, qui participe au débat politique et qui prend position et quelquefois qui reconnaît ce qui est fait de positif. C'est ça un homme d'État. Bonne année également à ceux qui sont à l'extérieur.
Oui,
bonne année à ceux qui sont en province. Bonne année également
au président de la République, Faustin Kantadera, qui nous suit, aussi au Premier ministre et à tous les membres du gouvernement. il ne me reste qu'à vous souhaiter très bon premier week-end de 2023 à tous. À la semaine prochaine, même heure et même fréquence. Et surtout, prenez bien soin de vous, car on ne vit qu'une seule fois. Au revoir.